France Inter.
Aujourd'hui, les cimetières de CO2, racontés par
Roland Séfirien, climatologue à Météo France.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Sur la petite île d'Øygarden, à l'ouest de la Norvège, un port d'un nouveau genre a vu le jour. Ces cuves d'acier dressées face à la mer du Nord ressemblent à celles d'un terminal méthanier, mais ici, le gaz qu'on manipule n'alimente pas des moteurs, il retourne sous terre. Ce gaz, c'est du dioxyde de carbone capté dans les cheminées d'une vieille cimenterie à Brevik, à près de 500 km de là. Refroidi à moins 26 degrés Celsius, liquéfié puis embarqué sur un navire baptisé Norsen Pioneer, il a traversé la mer avant d'être pompé dans un pipeline sous-marin de 110 km. Au bout du voyage, à 2600 mètres de profondeur, se trouve un réservoir géologique appelé Aurora, une couche de roches poreuses, jadis remplie d'eau salée. Et c'est là que s'ouvre le tout premier cimetière de CO2 de la planète, un lieu où l'humanité tente d'enterrer ses excès, d'enfouir ce carbone qu'elle a trop longtemps laissé s'accumuler dans l'air. Le 25 août dernier, les entreprises Equinor, Total Energy et Shell ont annoncé la première injection de CO2, 7500 tonnes, une quantité modeste mais symbolique. Pour la première fois, une chaîne complète de capture, transport et stockage de carbone fonctionne à l'échelle industrielle. Ce projet baptisé Northern Lights marque le lancement du premier système commercial de transport transfrontalier de stockage sous-marin de carbone au monde. D'ici 2028, Northern Lights devrait pouvoir stocker jusqu'à 5 millions de tonnes de CO2 par an issus de Norvège, du Danemark, de Suède et des Pays-Bas. Pour la Commission européenne, ces cimetières de carbone sont indispensables, je cite, pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Mais leurs détracteurs y voient aussi un risque, celui de masquer la lenteur de la sortie des énergies fossiles sous un vernis technologique. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Au sud de la Norvège, cette usine a été construite pour recevoir du CO2 en provenance de toute l'Europe. Objectif, enfouir ce gaz à effet de serre sous l'océan. Coût de l'investissement, 760 millions de dollars, dont 80% financés par l'État norvégien.
Bonjour Roland Séfirien.
Bonjour.
Le 25 août dernier, qu'est-ce qui a réellement été accompli donc en Norvège? Je viens d'en parler dans ce papier de lancement. C'est un test symbolique ou c'est vraiment le démarrage d'une chaîne industrielle complète?
Les deux à la fois, c'est le symbole de la réalisation d'une promesse technologique qui était là depuis, discutée dans la sphère recherche et développement et dans la sphère de la recherche sur le climat depuis, on va dire, plusieurs décennies, mais également aussi le démarrage factuel d'une première réalisation commerciale de capture qui est présentée comme une forme de service à des industries dures à décarboner, qui vise en fait à éliminer une partie de leurs émissions.
Mais c'est une capture sous-marine. Oui. C'est ça qui est nouveau d'ailleurs, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres projets qui existent déjà ailleurs dans le monde.
Oui.
Mais là, qu'est-ce qui fait vraiment la nouveauté en fait de la Norvège?
Alors, la nouveauté, c'est réellement tout le processus en fait qui va de la séquestration du carbone à la sortie d'une cimenterie. Il y a également aussi un dispositif, ce qu'indique Northern Light, c'est également une usine qui transforme des déchets en énergie. Donc, c'est des secteurs industriels qui sont durs à décarboner. Avec tout le cheminement, donc le processus de compression, compression et refroidissement du CO2, qui est un gaz en fait, son transport à travers une flotte des navires et l'enfouissement dans un pipeline à plus de 2000 mètres de fond au-dessous de l'océan.
Donc ce que vous venez de nous décrire là, c'est le voyage de la molécule de CO2 en fait.
Tout à fait.
C'est tout le processus à l'œuvre là en Norvège.
Tout à fait. Et donc je pense que c'est vraiment un acte très important parce qu'au final, quand on discute de cette technique d'élimination du carbone, en fait, on est en train de faire le cheminement inverse de ce que l'industrie pétrolière a fait et a développé sur les, on va dire, les 100 dernières années. Et donc là, on parle d'une prouesse technologique d'avoir développé une infrastructure similaire en moins de temps dans l'absolu.
Ouais, donc c'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'aller extraire des énergies fossiles,
oui.
Et là on va les remettre finalement dans le sous-sol.
Voilà, si en
c'est gros, chemin retour.
Si on récapitule entre ce qu'on savait faire avant, c'est-à-dire on prenait des carburants fossiles, que ce soit du pétrole, du charbon, du gaz. Ou d'autres types de carburants fossiles, on les brûlait et cette émission en fait, était répartie dans le système climatique via le cycle global du carbone, donc une partie stockée par les terres, une autre par les océans. Et donc là, en fait, on est en train de réinventer un processus qui fait l'inverse, c'est-à-dire une fois qu'on le brûle, on le capture et on le réenfouit directement dans ce réservoir.
Donc ça, c'est décrit très froidement, hein, avec une impression que tout fonctionne très bien et que finalement, on renvoie à l'envoyeur ce qu'il avait puisé dans les entrailles de la Terre, sauf que ce n'est pas si simple. On va en parler évidemment avec vous. À quoi sert exactement l'aquifère salin Aurora, dont je parlais tout à l'heure, et comment il garantit la stabilité du CO2 dans le temps, en fait?
Alors, il y a deux choses. Je ne vais pas partir dans des principes de thermodynamique compliqués, mais en gros, ce qui rend le dioxyde de carbone, qui est un gaz à notre atmosphère terrestre, en fait, sur la zone dans laquelle l'humanité vit, c'est premièrement la température et deuxièmement la pression. Donc, on le rend liquide en le compressant et en le tenant à des températures froides. Et en fait, le seul moyen de le garder sous cette forme liquide, c'est de le mettre très profondément au fond des océans sous la croûte terrestre, et ça permet de le garder sous cette forme liquide. Mmh. Sachant que des tentatives ont existé de l'injecter sous forme liquide au niveau du sédiment marin, c'est des choses qui ont pu être faites par le passé.
Le CO2 qu'on injecte donc sous forme dense, hein, c'est ça, dans les entrailles de la Terre, ça fait l'objet d'un suivi ensuite, ou on le laisse tranquillement reposer
C'est une vraie question, en fait, autour de la question de la capture, ou l'acronyme anglophone, c'est CCS, donc Carbon Capture and Storage. Il y a deux axes. Il y a l'axe réglementaire qui s'adosse d'une manière générale au protocole de Londres qui a été amendé en 2009. Et l'autre point, c'est la question de ce qu'on appelle le MRV, donc c'est Monitoring, Rectification, Verification. Donc c'est ces instruments-là aujourd'hui sur lesquels la science est en train de poser un petit peu des concepts et des jalons scientifiques pour comment mettre en place ce genre de procédure qui manque aujourd'hui, alors qu'on le voit, les industriels n'attendent pas et ils déclenchent la première mise en place d'un service.
Donc il n'y a pas du tout de principe de précaution sur cette réinjection de CO2 qui pourrait quand même, on peut l'imaginer, provoquer quelques changements au niveau de la pression, de la sismicité, non?
Alors, je ne vais pas m'engager sur la sismicité parce que c'est loin de mon champ thématique, mais si on devait rentrer sous la définition d'un principe de précaution, d'attendre des connaissances scientifiques robustes, objectives, sur les principes de monitoring et de vérification de comment ce CO2 injecté reste dans le réservoir salin au fur et à mesure du temps, en fait, on est loin de ça encore.
Oui. Pourquoi ? Parce que les industriels n'ont pas le temps d'attendre, vu les enjeux financiers que ça représente ?
Mais je pense que la question, c'est même nous, en tant que société, avons-nous le temps d'attendre face aux enjeux du changement climatique et la nécessité de décarboner notre société ?
On va en parler évidemment, parce que c'est toutes ces questions éthiques aussi qui se posent autour de ce projet. Alors, pour rester un petit peu en Norvège, c'est la Norvège qui choisit d'y investir beaucoup d'argent public. Pourquoi d'ailleurs, selon vous ?
Alors, je pense qu'il y a eu un monde avant l'accord de Paris, et ce qui se passe depuis, en fait. En gros, il faut savoir qu'une grosse partie de l'industrie fossile, pétrolière, vit sous, on va dire, perfusion d'argent public. C'est largement documenté dans la littérature, de la littérature grise, des rapports d'État, etc., etc. Au moment de l'accord de Paris, c'est les fameuses COP qui ont lieu toutes les années, c'est opéré en fait une forme de transformation de ce financement public. Donc on le voit très bien en fait avec l'article 4 de l'accord de Paris qui prévoit en fait la réponse globale, c'est-à-dire un équilibre entre les sources et les puits anthropiques. Donc déjà, même si on ne parle pas de capture, on voit ce puits anthropique. Donc qu'est-ce que c'est ? Et ça va être défini plus tard. Donc au moment du pacte de Glasgow, quasiment 5 ans plus tard, on a cette mise en place de l'arrêt ou désengagement petit à petit des financements publics inefficace pour l'industrie des fossiles. Donc, qu'est-ce qu'est un financement ou une subvention efficace? Et le dernier jalon, c'est réellement, on parle de ça, au moment du bilan mondial qui a eu lieu aux Émirats Arabes Unis il y a quelques années. En fait, là, directement, en gros, le but, c'est de router des financements publics, des subventions, pour les techniques bas carbone de transformation, donc renouvelables, et y compris élimination du carbone et son stockage.
Donc là, l'État norvégien soutient financièrement les infrastructures, et puis les industriels qu'on citait tout à l'heure, Equinor, Total Energy et Shell, eux, ils assurent l'exploitation, en fait, hein, c'est
tout,
ça ?
Tout à fait.
Est-ce que 7500 tonnes de carbone stockées, c'est beaucoup ou pas, ou c'est ridicule, en fait, par rapport à l'ampleur de ce qu'il faudrait mettre sous terre, réellement ?
Alors, si on prend l'équivalent du niveau d'émission par personne, en fait, si on devait rapporter ce niveau de stockage par rapport à, on va dire, à taille d'une ville, ça serait une petite ville en France, en fait. Donc, ouais. on parle de ça, et ça représente même pas une seconde de nos émissions mondiales de carbone. Donc, c'est, ouais. En fait, c'est un premier jalon, c'est un premier cran, mais c'est très très faible et c'est loin de la cible qu'il faudrait atteindre. Et donc, toute la question, c'est est-ce qu'on va y arriver ?
Mais encore une fois, c'est une étape fondatrice pour valider en tout cas la technologie.
Tout à fait.
Et c'est le cas depuis donc le mois d'août dernier, Roland Seferian. On va écouter un reportage qui va nous emmener au Canada. C'est un exemple de stockage de CO2 et c'était dans le journal de France 2 en 2009.
L'immensité glacée du Saskatchewan, état de l'Ouest canadien. Une terre magnifique et inhospitalière et sous le bitume, le plus grand stockage de CO2 dans le monde.
C'est du CO2 qui vient d'une usine de gazéification du charbon aux États-Unis.
Dans le Saskatchewan, ce sont ces pierres souterraines qui sont gorgées de pétrole. Le fait d'y injecter du CO2 permet de pousser l'or noir vers la surface. Le CO2 prend alors la place du pétrole et le voilà séquestré pour des milliers d'années.
Roland Seferian, donc l'exemple du Canada avec ces technologies de captage et de stockage du carbone qui ont l'air très récentes, hein, puisqu'on évoque ce qui se passe en Norvège là, cet été, mais leur histoire est quand même un peu plus ancienne, hein, la preuve là.
Oui, alors là, le reportage en fait parle d'une technique qui s'appelle Enhanced Oil Recovery. Alors, elle existe également sous l'acronyme Enhanced Gas Recovery. Mais en fait, le but c'est d'utiliser le CO2 capturé, par ailleurs, en fait, comme fluide de travail pour aller récupérer du pétrole ou du gaz dans des réservoirs qui ont été grandement déplétés. Mmh. Et en fait, c'est déjà des choses qui existaient auparavant. Donc là, c'est un cas particulier parce qu'on parle d'un grand, grand réservoir et d'une technique qui est déployée à très grande échelle. Mais au final, c'est pas si récent que ça. Et si on regarde par exemple ce qui s'est passé durant le mandat de Joe Biden, en fait le 45Q était déjà là pour financer en partie, donner des subventions en fait au stockage. Donc c'était 35 dollars la tonne de CO2 capturé sous forme d'Enhanced Oil Recovery, donc pour aller récupérer du pétrole en fait, et 50 dollars la tonne si c'était en fait un captage pérenne comme ce qu'on vient de discuter avec le projet de Northern Lights.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs technologies qui sont à l'œuvre, entre un captage donc à la cheminée, hein,
oui,
ou un captage direct dans l'air.
Tout à fait.
Donc il y a plusieurs techniques, hein,
Il y a plusieurs techniques. Le point essentiel, c'est de se dire la technique dont on parle aujourd'hui, qui est déployée par Northern Lights, c'est-à-dire récupérer le CO2 à la sortie de l'usine, en fait, ouais, directement dans le pot d'échappement, si on peut dire ça comme ça, c'est la technique qui est, on va dire, la plus mature et qui est la moins énergivore, parce qu'en fait, on va capturer le CO2 là où il est fortement concentré, à la sortie d'un pipeline ou d'une cheminée de combustion.
Directement sur le site industriel.
Voilà, directement sur le site. Ouais. Donc là, on a des concentrations de CO2 qui sont de plusieurs dizaines de milliers de parties par million. Dans l'air, on parle de 400-420 parties par million, donc on est vraiment sur des ordres de grandeur différents, et donc la capture directe dans l'air va devoir faire un effort supplémentaire, utiliser des matériaux différents en fait.
Donc ça, c'est une autre technologie ?
C'est une autre technologie, ou en tout cas l'effort à faire, que ça soit énergétique en termes d'espace, etc., pour les techniques de captation directe dans l'air est différente. Mmh. Et avec ça, en fait, on peut adosser également d'autres techniques qui sont les techniques de bioénergie avec séquestration de carbone. Donc là, l'idée, c'est de prendre le même dispositif, par exemple, que Northern Lights à la sortie d'une cimenterie ou d'une centrale à énergie.
Ouais.
En fait, à la place de brûler soit des déchets, soit directement le résidu de la combustion du ciment, en fait, d'aller brûler de la biomasse. Donc en fait, ces deux techniques, la capture directe dans l'air, donc DAC, et celle liée à la bioénergie sont deux techniques qu'on retrouve dans des scénarios évalués par le GIEC sur du plus long terme, sachant que la CCS est, on va dire, la pierre angulaire qui permet en fait le déploiement de ce genre de technique sur le long terme.
Donc CCS, c'est les cheminées, hein, justement,
les cheminées,
qui
oui,
puisent directement sur les sites industriels.
Tout à fait.
On va voir, puisqu'on a posé un petit peu le décor de ces technologies, si c'est vraiment une bonne solution pour le climat, parce que c'est ça évidemment qui est important, avec quel coût et quel risque.
Tout à fait.
Et puis Roland Seferian, vous répondrez aux messages qui arrivent pour vous sur la page de La Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux, et puis vos messages vocaux sur l'application Radio France.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Ce mélange d'eau et de gaz carbonique issu des profondeurs de notre sous-sol passionne aujourd'hui les chercheurs internationaux. Leur dernière idée pour lutter contre le réchauffement de la planète, c'est de piéger le gaz carbonique sous terre. Les recherches ont bel et bien commencé et le bassin parisien est un excellent candidat.
Le premier projet européen dans les années 93 à 95 avait estimé des capacités dans le sous-sol européen de 800 gigatonnes de CO2. Or, les émissions européennes à partir de grosses sources industrielles, en 1990, étaient de l'ordre de 1 gigatonne.
À l'arrivée, on pourrait donc stocker près de 800 ans d'émissions de gaz carbonique. Un espoir formidable.
Voilà, les promesses du stockage de CO2, ça c'était en 2001 sur France 2. Roland Seferian, vous qui êtes climatologue à Météo France. Alors justement, où en est notre pays dans ce domaine? Est-ce qu'il y a du gaz carbonique stocké par exemple dans le sous-sol du bassin parisien depuis ce reportage très prometteur?
Alors à ma connaissance, la seule structure qui est en activité, c'est Cryocap, qui est en Normandie, et qui stocke 0,1 millions de tonnes de CO2 par an.
Ouais.
Donc je ne sais pas si le dispositif parisien dont le reportage parle
a vu vraiment le jour.
L'histoire de la CC1 en France est une histoire compliquée, parce qu'elle dépend en fait des niveaux d'investissement des industriels sur ces questions-là.
Donc CCS, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant.
La capture et la séquestration du carbone, désolé.
Ouais.
Il y a eu des phases de développement, comme au niveau des années 2000, puis des phases de retrait, où en gros on jugeait que ce n'était pas forcément intéressant. Et en fait, tout ça est quand même sous perfusion de la question du prix du carbone. Donc, lorsque le prix du carbone augmente, c'est une technique qui devient rentable, parce qu'on peut bénéficier des crédits carbone. Et puis inversement, quand le coût du carbone en fait, diminue, ce genre de technique est très
largement... C'est comme à la bourse, en fait, c'est ça ?
Il y a une forme de réponse, en fait, aux subventions, en fait.
Ouais, et la tonne de carbone, ça, capter et stocker, ça coûte combien là ?
Alors, avec un dispositif de capture et de séquestration, on est sur $100 la tonne de CO2.
En moyenne, donc, selon les infrastructures, évidemment.
Tout à fait.
Ça reste très cher, en fait.
Ça reste très cher.
Par rapport au fait d'éviter les émissions dès le départ.
Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est, en fait, c'est une technique de remédiation qui, en fait, est là pour éliminer des émissions. Donc, le GIEC est très clair, en fait, le groupement international d'experts sur le climat en fait, dit que ce genre de technique est une technique utile pour les industries qui sont dures à décarboner, donc cimenterie, industrie chimique, industrie de l'énergie et également, mais en aucun cas un remplacement d'un effort à réduire les émissions à la source.
C'est ça, donc il ne faut pas se méprendre sur le message et la question.
Hein.
Ce n'est pas une façon d'exclure totalement cette géo-ingénierie, mais ça ne restera jamais aussi efficace que d'arrêter d'émettre du carbone dès le départ à la source.
Tout à fait. Alors, je me permets de vous corriger sur ce point-là. Alors, en France, on a l'habitude de traiter le terme, ce type de technologie comme de la géo-ingénierie, mais c'est largement débattu parce qu'au final, les CCS, c'est vraiment la pierre angulaire d'un portefeuille de solutions pour décarboner de l'industrie. Donc, en tant que telle, elle n'est pas considérée comme de la géo-ingénierie. C'est d'ailleurs des choses qu'on peut retrouver dans les rapports de l'Académie des sciences ou même du Haut Conseil pour le climat. Mais en fait, c'est la porte d'entrée à d'autres techniques. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de la DAC, j'ai parlé de la capture de carbone adossée à de la bioénergie. Ça pourrait rentrer dans une
l'appellation géo-ingénierie. Ouais. Et quand on parle de cimetière de CO2, d'ailleurs, ce terme qu'on a employé aussi pour le titre de cette émission, est-ce que l'image est juste, Roland Seferian, pour vous?
Alors, je sais, C'est quelque part poétique.
Ouais. Parce qu'il s'agit bien d'aller enterrer du carbone pour l'empêcher de revenir dans l'atmosphère.
Tout à fait, tout à fait. Donc littéralement, c'est réellement un cimetière de CO2.
Ouais.
Après, est-ce que je présenterais ça comme un cimetière ? Je ne sais pas.
Ouais. Bon, en tout cas, le terme est plutôt facile à utiliser pour faire comprendre un petit peu de quoi on parle.
De quoi on parle, tout à fait.
À l'échelle mondiale, quel est le poids réel du captage et du stockage face aux émissions globales de gaz à effet de serre ?
Alors, la question, c'est de resituer, on va dire, l'équivalent d'une cinquantaine de dispositifs déployés. Ça correspond à 50 millions de tonnes de CO2 captées et séquestrées par an. Et on en émet plus d'une quarantaine de milliards. Donc, en fait, on parle de plusieurs ordres de grandeur.
D'accord. Donc, in fine, on capture combien en pourcentage ?
C'est
rien du tout,
en fait. C'est rien du tout. C'est même pas une seconde des émissions mondiales de ce que l'humanité est capable d'émettre.
Moi, j'ai 0,1% des émissions mondiales qui sont capturées par rapport, justement, à ce qu'on envoie réellement.
Voilà, 0,1, 0,3, selon la manière dont on estime. Mais encore une fois, pour revenir à ce dont on a discuté juste avant le break, en gros, la question du MRV, donc Monitoring, Verification et Rectification, dans la mesure où c'est pas en place, même les estimations de réellement combien a été capturé et séquestré de manière efficace et en plus sur le long terme reste en fait une vraie question. Donc même ces chiffres, c'est potentiellement ce chiffre-là, 0,01%, soit potentiellement moins.
Donc ça veut dire que c'est encore totalement dérisoire face au volume à compenser réellement et à ce qu'on en voit régulièrement.
Pour reprendre un vocable plutôt technologique, en fait on n'est pas à l'échelle.
Ouais. Pourquoi certains chercheurs parlent d'un outil limité mais vital ? Est-ce que ça rejoint ce que vous nous disiez au sujet du GIEC, justement ?
Exactement. Ouais, exactement. En fait, on a besoin de cette technologie pour décarboner des industries dont on aura toujours besoin, en fait, la cimenterie, l'industrie chimique et d'autres industries lourdes. En fait, on aura besoin de cette technique, mais en fait, la disponibilité de cette technique d'élimination du CO2 et de cette séquestration, en fait, dépend de notre capacité à évaluer le volume des émissions dures à décarboner. En fait, ce travail-là n'a pas été fait de manière fine et objective, et donc il y a un véritable enjeu scientifique là-dedans.
Alors, vous n'êtes pas géologue, mais quand même, sur la question des risques associés à ce type de stockage sous terre, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des connaissances à ce sujet ?
Alors, tout à fait, je ne suis pas géologue. Néanmoins, j'ai potassé avant cette interview. Donc, il y a plusieurs types d'impacts. Déjà, on peut juste rappeler les impacts ou la mesure de ce qu'implique le stockage. Parce qu'en fait, on parle de deux choses. On parle d'un dispositif qui va absorber le CO2, le séquestrer et puis l'enfouir.
Ouais.
Donc en fait, c'est deux techniques un petit peu séparées sur des sites. Donc la technique de captation, en fait, va demander potentiellement de l'eau, des entrants chimiques. Donc en fait, ce genre de fabrication, ça suggère une mise en place d'une industrie lourde. Donc déjà, donc ça suggère également des impacts.
Donc c'est pas neutre du tout. Hein,
pas neutre du tout et des impacts qui restent en fait à quantifier parce qu'en fait, on n'a pas de mesure d'un cycle de vie complet, des impacts complets du cycle de vie de ces techniques.
Et le
stockage en fait. Donc il y a des questions de permanence du stock. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des fuites ? Il y a des risques de pollution des nappes, donc d'acidification des nappes, parce que le CO2 est un acide dans l'eau, donc ça va rendre ces nappes corrosives. Donc il y a cette question-là, et la question de la fuite, et donc qu'est-ce qui se passe si jamais un réservoir comme celui d'Aurora viendrait à fuir
En Norvège. Hein.
En Norvège, tout à fait, viendrait à fuir, et donc il y aurait une quantité de CO2 très concentrée qui rejoindrait le fond de l'océan, qui est en fait un espace protégé, si on en suit les documentations de l'UNESCO, et donc ça viendrait corroder un espace qui est encore aujourd'hui relativement préservé des impacts du changement climatique et de l'acidification des océans.
Donc il y a des scénarios qui sont effectués là-dessus, sur une fuite possible de CO2 comme ça dans le fond marin ?
Dans la littérature scientifique, il faut remonter loin. En fait, il y a eu des tentatives dans des protocoles expérimentaux qui ont réalisé en fait, une estimation de ces risques d'acidification si on venait à injecter ce CO2 liquéfié directement sur le substrat marin. Donc, on ne parle pas de la même chose aujourd'hui. Donc, en gros, il y a encore de la recherche qu'il y a à faire pour évaluer les impacts de ce type de technique.
Donc il y a plein de choses à faire en fait, hein, parce que les risques sont faibles mais pas nuls évidemment.
Oui.
Ça veut dire qu'il faut vérifier les couches rocheuses, la pression, on en parlait un petit peu tout à l'heure, et donc surveiller d'éventuelles fuites aussi
tout à fait.
Autour de ces technologies.
Tout à fait. Moi, mon ressenti depuis, en tant que scientifique, mais également... auteur ayant participé à l'élaboration des rapports du GIEC, j'ai l'impression que sur la question des solutions, en fait, on a un besoin de science qui est en fait colossal pour guider l'action publique, guider également les partenaires industriels, parce qu'en fait, toutes les actions sont bonnes à prendre. Et j'ai l'impression que de manière générale, sur cette question-là, des acteurs vont plus vite que ce que la science est capable d'aller.
Oui, et donc des normes aussi à prendre pour pouvoir sécuriser ces installations.
Tout à fait.
Parce qu'il n'y a pas de normes aujourd'hui très strictes encore là-dessus ?
Il n'y a pas de normes très strictes, il y a des protocoles. Donc, par exemple, si on reprend les recommandations du Haut Conseil pour le Climat, éditées en 2023, justement sur la question de la captation, une des recommandations, c'était de signer le protocole de Londres qui a été amendé en 2009, qui traite cette question du stockage de carbone offshore, donc dans les sédiments ou dans le sol substrat marin, et donc d'arriver à un certain nombre de signatures pour que ce protocole devienne contraignant et engage des formes de responsabilité. Donc aujourd'hui, en fait, il y a tellement peu de signatures qu'on est très loin d'une forme de mise en responsabilité des industriels ou des États qui déploient ce genre de technique-là.
Donc il y a un vide quand même autour de ces questions qui est assez hallucinant quand même, non ?
Alors, vide, c'est, j'irai pas aussi loin que ça, parce que en fait, c'est des techniques qui sont largement discutées au sein des conférences des parties, en particulier depuis l'accord de Paris.
Oui, mais sur les enjeux de sécurisation.
Donc voilà. Et ce qui manque, en fait, c'est le côté réglementaire.
Oui, mais c'est pas
rien. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est pas rien. Mais c'est pas comme si, en fait, ça sortait de nulle part. En fait, mm-hmm. C'est là depuis un moment. Les premières tentatives d'inclure de la capture de carbone dans les scénarios évalués par le GIEC datent du quatrième rapport, donc en gros aux alentours des années 2000-2007.
Ouais.
Le GIEC a édité un rapport spécial sur la capture de carbone et la séquestration en 2005. Donc en fait, dans la science, c'est quand même là depuis un moment.
Ouais.
La question, c'est comment la société civile s'accapare du sujet.
C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Est-ce que, par exemple, la population norvégienne, elle est très informée sur ce qui se passe en ce moment dans ces eaux ?
Alors, je pense, si on fait un pas de côté, je pense qu'en France, on est iconoclaste sur ce sujet-là, parce qu'au final, on en parle peu dans les grands médias, alors qu'il y a des structures, des structures comme l'Association des émissions négatives, où on a des structures qui poussent, en fait, qui soutiennent les industriels pour déployer ce genre de techniques. Et, à contrario, dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, dans les pays scandinaves, etc., qui ont un petit peu plus cette culture, de débattre le sujet technologique au-delà des principes, éthiques et des principes moraux, en gros, ils discutent plus largement de ce genre de choses.
Donc,
ce genre
pour répondre à ma question, en Norvège, on débat de ces sujets-là ?
En tout cas, ce sujet-là est traité au même niveau que ce qui était traité la capture de carbone aux États-Unis il y a plus de 10 ans dans le Times, en fait.
Roland Seferian, est-ce qu'il faut tout miser sur le stockage ou diversifier les solutions ? On va en parler avec vous dans un instant, et puis vous répondrez également aux messages qui arrivent pour vous sur la Terre au carré sur notre site et vos messages vocaux sur l'application Radio France. À tout de suite.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Il entend par auto-accroissement de la technique ce qu'on appelle des fois aujourd'hui technosolutionnisme, c'est-à-dire cette idée que lorsqu'on a un problème technique, on va trouver une solution technique, et cette solution technique va engendrer de nouveaux problèmes qui vont engendrer de nouvelles solutions, qui vont engendrer de nouveaux problèmes, qui vont engendrer de nouvelles solutions. Je voudrais pas être méchante avec les ingénieurs, mais c'est quand même typiquement une vision d'ingénieur qui dit un problème, une solution, un problème, une solution.
L'économiste Hélène Torgman qui évoquait la pensée du philosophe Jacques Ellul dans un podcast de France Culture diffusé cet été. On parle de ces cimetières de CO2 avec vous, Roland Seferian. Vous êtes climatologue donc à Météo France. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'auto-accroissement de la technique là, de Jacques Ellul ?
C'est typiquement ce qu'on a tendance à appeler le hasard moral. C'est en gros, c'est une forme de fuite en avant. Au lieu de résoudre le problème à la base, donc ici en l'occurrence réduire nos émissions de CO2, on trouve un palliatif, une remédiation technique pour éviter de faire et d'implémenter les mesures nécessaires.
Ouais. Hasard ou aléa moral en fait, c'est quoi l'expression qui est employée
Désolé du vocable anglais, mais oui, en français ça serait aléa moral.
Aléa moral, voilà. Donc c'est ça que certains acteurs finalement se croient protégés par la technologie.
Tout à fait. Après, je pense qu'il y a... j'aimerais faire un pas de côté sur cette question-là, parce que c'est un véritable sujet qui est présent dans notre communauté, en fait, parce qu'au final, la science du climat, c'est une science associée à la technologie aussi. Donc, il faut remonter, par exemple, au rapport de l'UNEP de 2019. Donc, il y a celui de 2025 qui est sorti il y a quelques jours. Donc, celui de 2019 traite la question de la numérisation et de l'impact de la numérisation, de la digitalisation sur le climat. Et donc, ils ont fait un travail de fond, les auteurs de ce rapport, et en gros, ils ont comparé l'empreinte environnementale d'un smartphone, qui est une rupture technologique, versus toutes les autres technologies que le smartphone remplace. Mmh. C'est-à-dire le Minitel, une imprimante, un appareil photo, un téléphone, etc., qui étaient des dispositifs qui étaient principalement construits en plastique, qui avaient une empreinte environnementale, un cycle de vie, qui étaient branchés de manière permanente sur le courant. Et donc, ils arrivent à cette solution, c'est que si jamais le dispositif technologique est bien pensé et répond à de multiples usages en vue d'une rationalisation et d'une bonne utilisation, en fait, il peut y avoir un enjeu, une rupture qui peut être bénéfique d'un changement technologique. Mais avec ça, voilà, il y a tous ces garde-fous qui sont présents, ouais, en fait, sur comment la technologie peut être accompagnée des changements de comportement et d'usage.
Sauf qu'on voit que les technologies naissent sans cesse. L'IA en est un bon exemple, hein, et on voit l'empreinte carbone de l'IA aujourd'hui, qui est assez sidérante quand même. Hein.
Oui, oui, tout à fait, mais on pourrait même parler de ça, parler de ce sujet-là sur d'autres technologies, y compris des technologies de la transition énergétique. Donc, au final, la question de l'aléa moral est présente partout, sur toute forme de technologie, même des technologies plus anciennes, en fait, sur la manière dont on les utilise et les garde-fous qu'on va poser autour de ces technologies.
Roland Seferian, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui dénoncent un greenwashing autour de cette idée de captage de carbone ?
Alors, je pense que le terme... Alors, personnellement, le terme greenwashing, je le trouve dur, ou en tout cas, la question, je m'adosse en fait à l'état des connaissances, avec le meilleur consensus scientifique qu'on a dans les derniers rapports du GIEC. En fait, ce genre de technologie est inévitable si on souhaite atteindre la neutralité carbone. Neutralité carbone qui est en fait la contrainte géophysique ultime, la contrainte climatique ultime pour stabiliser le climat. Donc, ce qu'on souhaite...
C'est-à-dire que même si on abaissait suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre, on ne pourrait pas se passer de ces technologies pour arriver à la neutralité carbone,
pour des secteurs durs à décarboner, qui sont en fait principalement liés à de la combustion,
la production de chaleur. Les cimenteries, par exemple.
Voilà, tous ces secteurs industriels ont besoin d'être décarbonés, pour lesquels des dispositifs comme celui de Northern Lights peut arriver à fournir une solution. Mais c'est juste une option parmi tant d'autres. On peut très bien citer d'autres solutions, comme des solutions basées sur la nature, la reforestation, de l'agriculture orientée climat, qui sont d'autres technologies.
Est-ce que la France pourra exporter son CO2 vers la mer du Nord d'ici la fin de la décennie, par exemple ? Est-ce que c'est un des projets aussi
Alors, c'est des choses qui sont en cours d'être discutées. Et pour reprendre ce que j'ai mentionné au début de l'émission, ce dont on parle, en fait, avec la question de la séquestration, c'est de remettre en place, d'une manière différente, avec d'autres approches, ce que l'industrie pétrolière a mis en place sur les 100 dernières années. Donc on parle de CO2 duc, de réservoirs de stockage pour le transport. Donc là, par exemple, c'est l'Espagne qui a fourni le tanker qui va servir à stocker le CO2 avant qu'il soit injecté dans le pipeline pour le dispositif de Northern Lights. Donc en fait, on parle de ces choses-là. Et donc forcément... ça demande des ressources, ça demande de l'ingénierie et ça demande du temps.
Il y a le projet CO2 Highway Europe, hein, qui relierait donc les sites français au stockage norvégien.
Tout à fait.
Donc ça, c'est ce projet qui est dans les cartons et qui pourrait changer la donne ?
Alors, changer la donne, je ne sais pas, parce qu'au final, ce qui est, si on s'appuie en gros sur les textes, donc par exemple, on parle de la stratégie nationale bas carbone, qui est en gros ce que le gouvernement prévoit de faire en termes de réduction de nos émissions. En fait, on parle d'une dizaine de millions de tonnes capturées d'ici 2030, et un petit peu plus, une trentaine à l'horizon 2050. Donc en fait, on parle de très peu. Donc est-ce que ça a changé la donne par rapport aux émissions de la France qui sont de l'ordre de 400-500 millions de tonnes pour les émissions territoriales, si on exclut l'empreinte, c'est-à-dire toutes les émissions importées de l'extérieur? En fait, on est vraiment à un ordre de grandeur inférieur à nos émissions territoriales.
En tout cas, Roland Séfarian, ce qu'il faut imaginer, c'est une sorte d'autoroute transfrontalière du carbone, quand même. Hein,
tout à fait.
Si ces projets se mettent en place entre la France, par exemple, et la Norvège, donc ça pose aussi un peu la question de la dépendance vis-à-vis des sites de stockage norvégiens, donc on serait dépendant.
Tout à fait. Donc ce que j'ai l'habitude de dire, quand on m'interroge sur ces questions-là, sur la question des solutions, en fait, c'est de se dire, aujourd'hui, on est déjà dans une situation d'inégalité géophysique. En fait, on a des pays qui émettent, c'est la première source d'inégalité. Il y a des pays qui vivent les impacts du changement climatique. Et donc, si on rajoute la strate des solutions, et notamment des solutions liées au stockage, en fait, on rajoute une autre strate d'inégalité géophysique, parce qu'au final, il y a des régions du monde qui sont plus prompts à stocker, par exemple le Canada, la mer du Nord, par rapport à la France qui a peu de réservoirs de stockage. Et donc, on voit qu'il y a une relation, une dimension géopolitique qui se met en place dans la question des solutions face au changement climatique.
Allez, on va passer aux questions des auditeurs et auditrices pour vous, Roland Séfarian. On va commencer avec un message vocal, celui de Gilles.
Bonjour la Terre au carré. Combien de gigatonnes de CO2 faudrait-il enfouir par an pour obtenir la neutralité carbone ?
Voilà, à vous de répondre, Roland Séfarian.
Alors,
petit calcul mental.
On peut faire un calcul mental où je peux vous donner les chiffres tels quels. Donc, en gros, si on reprend les quatre scénarios archétypes qu'on a évalués dans le rapport 1.5 du GIEC, qui date de 2018 et dont les chiffres sont toujours d'actualité. En fait, on regarde ces quatre scénarios qui déploient la capture dans tous les cas. Et donc, on est sur une barre, une gamme de valeurs entre 500 et 1000 milliards de tonnes de CO2 capturées en 2100 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Lorsqu'on regarde le nombre d'années, donc on parle de 80 ans, on est sur un flux de l'ordre de 15 milliards de tonnes par an.
François demande, est-ce qu'il serait plus judicieux d'extraire le CO2 des océans plutôt que de l'atmosphère, le CO2 étant plus concentré en mer ?
Alors le CO2 est effectivement beaucoup plus concentré en mer, mais il est concentré sous des formes différentes, formes ioniques. Donc on a les ions carbonates, les ions bicarbonates, etc., qui sont associés à l'eau. Donc effectivement, il existe des technologies qui visent à retirer ce CO2 directement de l'eau. Donc ça s'apparente à la technique de DAC qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais en fait, casser ces molécules, ou en tout cas les retirer de l'eau, en fait, demande des infrastructures qui sont en fait conséquentes et potentiellement beaucoup plus coûteuses.
Niels nous dit les meilleurs pièges à CO2 sont les tourbières, 3% des sols, 30% du stockage. Les enjeux de protection des tourbières sont donc plus importants, dit-il, que le stockage mécanique.
Alors, c'est un bon point. En fait, j'ai évoqué tout à l'heure les solutions basées sur la nature, qui sont des solutions également de préservation, de protection, de cet effet de services écosystémiques que la nature nous rend, c'est-à-dire qu'il y a 25 à 30% de nos émissions qui sont absorbées par la biosphère terrestre. Les tourbières participent à ça, et donc en protégeant, en évitant de rendre ces écosystèmes vulnérables au changement climatique, on préserve ce service écosystémique. Donc effectivement, c'est très important.
Et c'est beaucoup moins coûteux aussi investissement.
Oui.
Merci beaucoup.
Et c'est bon pour la biodiversité.
Merci beaucoup Roland Séfarian d'être venu nous parler de ces cimetières de CO2 aujourd'hui au micro de la Terre au carré.